Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi, et oui, on est là même les jours fériés, bien sûr, avec Rémi Barré, avec Perico Légas, Mathilde Himmer et Pierre Rondeau. On est avec vous, bien sûr, sur RMC et sur RMC Story, canal 23. Dans un instant, on vous attend nombreux au 32-16 pour réagir à notre sujet immobilier, avec cette proposition de loi pour protéger les propriétaires des locataires mauvais payeurs. Pour ou contre le durcissement de la loi, 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, vous l'adorez, nous aussi, le journal décalé de Paul Lassène qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. À 14h, on estime à près de 2 millions le nombre de femmes au foyer en France. Faut-il leur créer un revenu spécial? Vos réactions, bien sûr, sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. 14h30, RMC s'engage pour vous. On reviendra sur le dossier de Made.com. Vous savez, cette entreprise qui a fait faillite, il y a du nouveau pour les clients lésés dans cette affaire, ceux qui attendaient leur canapé ou encore leur remboursement. On vous dira tout vers 14h30. Et puis peut-être, Rémi, qu'on ouvrira le coffre RMC.
J-9, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous envoyez coffre par SMS au 7-32-16. Et si vous êtes sélectionné, alors vous gagnerez soit une enceinte Marshall Webern, soit un iPad. Et à partir de ce moment-là, il y a le choix. Vous gardez votre cadeau ou alors vous y renoncez.
Ah oui.
Mais vous pouvez alors ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un mini-bar et...
Un four pour des mini-pizzas.
Un mini-pizza.
Enfin, un mini-four.
Un mini-four, oui. Voilà.
C'est mon rêve.
Est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
Il est 13h05 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser à la proposition du jour dans Estelle Midi. C'est celle d'un député de la majorité qui souhaiterait durcir la loi contre les squatteurs afin de protéger les propriétaires contre des locataires mauvais payeurs. Mais que propose-t-il vraiment, Rémi?
Alors concrètement, la proposition de loi prévoit la création d'un délit d'occupation sans droit ni titre en violation d'une décision de justice du logement d'autrui. Il permettrait aux propriétaires d'un bien immobilier d'attaquer en justice un occupant qui se maintient illégalement dans les lieux. Le texte rend aussi obligatoire la clause de résiliation dans les contrats de bail qui permet une résiliation automatique du bail lorsqu'un commandement de payer est demeuré infructueux. Donc, en clair, quelqu'un qui est dans un logement qui ne paye plus serait considéré comme un squatteur. Un juge ne pourra plus s'y opposer. Il propose encore de réduire les délais dans la procédure, ça c'est important, dans la procédure contentieuse du traitement des impayés de loyer. Et il s'agit de renforcer les peines aussi pour les squatteurs. Actuellement, un squatteur encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et cette peine, elle est inférieure à celle qu'encourent les personnes qui expulseraient personnellement les squatteurs de leur domicile sans avoir recours à la police, qui est de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. L'idée est de ramener les peines à la même hauteur.
Pour ou contre le durcissement de la loi contre les squatteurs, Perico Légas?
C'est une priorité parce qu'il y a de telles tragédies. Alors attendez, le grand propriétaire un peu riche qui a un locataire...
J'aime bien le un peu riche. Il est riche, il n'est pas riche.
Ouais,
un peu riche.
Je veux dire la grosse fortune, qui a de gros appartements.
Il n'est pas un peu riche.
Voilà, il n'est pas,
voilà, pas un peu riche, mais c'est une tournure de langage. Et dont le locataire a des problèmes de fin de mois, celui-là ne peut pas bénéficier d'une loi. Par contre, je parle de ceux qui sont... dont la vie est
donc, la loi n'est pas la même pour tout le monde. Donc, hein, si vous êtes riche ou pas riche. Bon, bah, écoutez, c'est un.
Oui, heureusement, d'ailleurs. Mais fiscalement aussi, je veux vous.
Enfin, là, c'est la loi.
Une loi, elle tient compte de la réalité du terrain, des contextes sociaux et des enjeux qui sont. Et la loi est faite pour ça.
Vous allez au tribunal, je veux dire, vous êtes jugé pareil si vous êtes riche ou pas.
Il y a un dossier qui est constitué.
Eh
bien, le dossier n'est pas le même. Le dossier de quelqu'un qui a des appartements dans le 6e arrondissement, qui les loue très cher, et la personne a un problème de loyer, ne sera pas traité comme la personne qui vit de ce loyer. voyez, mais c'est la justice sociale, c'est le
BABA. Mais que la loi ne soit pas la même.
Mais je sais bien que ça vous choque, mais c'est pour ça.
Oui, la loi doit être la même pour tout le monde.
Non, la loi n'est jamais la même.
C'est pas une loi en fonction des riches ou des pauvres.
Non, la loi prévoit des cas de figure. La vitesse est.
Il y a droit à l'interprétation.
Non, à 130. Non, 50 km de dépassement, c'est 2 points. 30, c'est 1 point.
Oui,
donc,
bah oui, d'accord. Et c'est la même chose.
Donc, par
si vous avez un SUV ou si vous avez une voiture pourrie, vous avez la même loi sur le code de la sécurité routière.
On ne fait pas allusion à ça. Donc, je finis ma démonstration. Les gens dont les revenus dépendent de ce loyer, il y a des gens qui aujourd'hui ne vivent pas parce que le loyer n'est pas payé. Et la justice est là, on dit, ah non, vous pouvez pas expulser entre le 15 octobre et le 15 mars. Nous avons vu les émissions se succèdent les unes après les autres, y compris sur cette chaîne, de maisons squattées par des gens qui sont soit dans la difficulté, des étrangers, des migrants, avec des propriétaires qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, avec les tribunaux qui n'aboutissent pas, et surtout, on leur dit, surtout, n'allez pas les expulser vous-même, quand ils récupèrent leurs biens. C'est dans un état de taudis absolument épouvantable. Et on est dans une situation où l'état de droit de la République française fait que des gens qui occupent illégalement, ils ont une protection. Ils ont une protection. Ou en tout cas, les procédures n'aboutissent pas. Et les propriétaires n'ont droit à rien sinon à faire très attention à ne pas faire justice eux-mêmes, ce qui est très bien. Donc, il était urgent qu'il y ait une loi très dure, très sévère, très ferme, très équitable. Voilà, et que le propriétaire qui n'est pas totalement dans le besoin, on peut peut-être le faire attendre un petit peu.
Oh bah lui, il peut récupérer son appart en taudis, il n'y a aucun problème. Et puis s'il le refait, c'est pas grave, il est riche.
Non, je ne parlais pas de ces cas-là. Je parlais d'un locataire. Je parlais d'un locataire correct qui, à un moment donné, a eu un problème de fin de mois.
Mais non, c'est la loi, doit être la même pour tout le monde.
N'a rien à voir, Estelle, Denis, avec la personne qui fraude, qui casse la maison et qui s'installe. Voilà, la situation n'est pas la même.
Oui, mais sauf que, par exemple, effectivement, si c'est un propriétaire riche, il a encore le droit de récupérer son bien, c'est son bien.
Mais il va récupérer. Sauf que la loi donnera un délai au locataire pour le payer. Je parle de ceux qui ont cassé l'appartement, qui sont installés illégalement et qui ne payent pas leur loyer depuis 2 ans.
D'accord. Et on a le droit de casser l'appartement des riches et de pas payer l'appartement depuis 2 ans ou ça c'est pas.
Non, je dis que si c'est un problème de solvabilité du locataire, un locataire tout à fait respectueux et correct qui a un problème de fin de mois. Peut-être que la procédure doit être un petit peu plus souple envers lui parce qu'on lui laisse une chance que celui qui est rentré par effraction, qui a tout pété, qui ne paye rien. Vous m'avez compris, vous êtes totalement d'accord avec moi en plus.
Non, pas vraiment. Mathilde Demeure, est-ce qu'il faut que l'État se porte garant? Parce que justement, il y a aussi, Péricault le disait, il y a des cas où, par exemple, vous êtes une femme seule avec 2 enfants et puis vous avez un accident de la vie qui fait que vous ne pouvez pas payer votre loyer. Évidemment, on ne va pas vous foutre dehors, ça paraît aberrant, même si le propriétaire a besoin de récupérer son bien. Est-ce qu'il faut que l'État puisse. J'ai proposé des situations de relogement pour que tout le monde soit content, entre guillemets. Sinon, ça va aboutir à des drames, évidemment.
Merci d'avoir dit avec les meilleurs mots que moi.
Je suis d'accord avec Péricault, en réalité. Je pense qu'il y a une grosse différence à faire, comme le disait Péricault, entre les personnes qui sont non solvables dans la question de la location et les personnes qui squattent. Sauf que dans la loi, c'est pas si évident que ça de faire la différence. Et donc là, il faut regarder très précisément ce que propose le texte. Or, on n'a pas encore le détail là-dessus. Moi, j'ai presque envie de dire oui à une condition et qui est vraiment importante pour
oui,
moi.
C'est
oui au durcissement, d'accord. Si et seulement si il y a, pour le propriétaire, une obligation de rénovation thermique du bâtiment. Pourquoi ça? Non mais j'y viens.
Je me disais, tiens, c'est marrant, on n'en a pas parlé depuis 10 minutes.
Oui.
Elle a raison après
mais
tout. Hein.
Oui, elle a raison.
Franchement, tu
on
vas
fait
voir.
Du pire de coup.
On a plus le droit de louer les passoires thermiques.
Elle joue à l'utile à l'agréable, ça s'appelle.
Non mais c'est important, pourquoi? À nouveau, les gens vont avoir des factures qui explosent. Comment est-ce que ceux qui vont être dans le choix à faire entre payer son loyer, payer sa facture et manger, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Peut-être qu'il y en a qui vont choisir de ne pas payer leur loyer parce qu'ils ne peuvent pas. Est-ce que ces gens-là, on va les foutre dehors?
Mais non, c'est le problème.
Je pense que non. Et donc, cette proposition-là, il faut la regarder, mais il y a un moment où il me semble que l'État doit être dur avec les squatteurs, doit être dur avec les propriétaires qui ne font pas ce qu'il faut pour que les locataires aient moins à payer et pour des questions écologiques et de pouvoir d'achat, et dur aussi avec... Le durcissement des questions environnementales qui deviennent des questions...
Oui, c'est une petite mesure écologiste dans la loi. Tac, voyez,
mais c'est pas écolo, en fait. Ça n'est pas écolo, c'est une question de pouvoir d'achat. Je sais pas comment le dire, que tous les sujets écolos sont des questions qui, à terme, sont des questions de pouvoir d'achat.
Donc le mec, il récupère son loyer, mais il a 40 000 euros en plus de travaux. Donc,
mais non, parce que t'as des prêts aujourd'hui, de toute façon, de facto, tu ne peux plus louer de passoires thermiques avant d'avoir fait des travaux.
Certaines passoires thermiques, seulement une petite catégorie. Mais c'est important ce que tu dis, parce que j'arrête là-dessus. Oui, en effet,
on s'est compris.
Pierre,
la loi sera pas la même pour tout le monde.
Je te garde au chaud. 2 secondes, je voudrais qu'on prenne Thierry. Justement, c'est intéressant, Thierry, les propriétaires retraités nous appellent de Floride dans l'Aude. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Et Thierry, vous avez eu un souci il y a 4 ans.
Oui, je réside sur la commune de Fleury, mais en fait, la maison qui a été occupée, squattée, avec des serrures explosées, les verrous qui ont été explosés, ça remontait à 4 ans. Ça se situe à Carcassonne. Voilà.
D'accord.
Donc cette maison, moi je suis rentré un soir, je venais de marquer, de fêter, mon départ en retraite, le retard de mes pensions, et je suis rentré vers 11h30, minuit, et j'ai trouvé la lumière allumée, quelqu'un dedans qui me dit, je suis chez moi, ici, je suis dit, attendez, vous rêvez, c'est une femme d'une trentaine d'années. J'ai dit, non, vous êtes chez moi, là. Si vous êtes rentré en cassant la porte, vous n'êtes pas chez vous. Bon, voilà. Donc, en soi, en quoi, elle a appelé la police, elle est sortie dans le jardin, elle a appelé la police est arrivée. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez frappé. J'ai dit, non, j'ai pas frappé, c'est une menteuse, elle occupe, elle a cassé la porte. Constatez d'abord qu'elle a cassé la porte. J'ai dit, moi, si, écoutez-moi, je fais 115 kilos, si je la frappe, je me fais du steak haché dans les murs, d'accord?
Alors, c'est
vous
appelez
l'identité judiciaire. Ben ouais. Et le flic me dit, calmez-vous. Non, je me calme pas. Je me calme pas parce que si vous rentrez chez vous ce soir, qu'il y a quelqu'un qui a cassé la porte qui rentre chez vous.
Ah non, mais c'est inadmissible.
Comme un pinson, d'accord?
Mais là, c'était il y a 4 ans, vous avez récupéré votre bien, Thierry, quand même.
Il y a 4 ans, mais ça dure. Mais oui, le problème, c'est que ça dure. Si ça avait été comme temps. Et le lendemain, ils sont revenus, parce que moi, quand elle a voulu sortir, ben, vous lui refermez la porte, j'ai mis un coup d'épaule, donc c'est bon. Et donc après, oui. Et donc, elle a appelé le flic, et là, on m'a dit, monsieur, vous l'avez menacé de mort. J'ai dit non. Et après, cette femme s'est mise à crier, à hurler, vous voyez, à hurler, voilà. Donc, le capitaine, l'OPJ m'a dit, monsieur, pour nous, ça s'arrête là, on s'en va, démerdez-vous, voilà.
Mais alors, vous en êtes où, Thierry? Vous en êtes où aujourd'hui? Vous en êtes où aujourd'hui?
Je suis où? Cette personne-là s'est faite passer pour un propriétaire, c'est hallucinant. Elle a loué à des Croates, et donc, depuis, les Croates sont restés 1 an et demi, 2 ans, sans payer de loyer ni rien, ils ont récupéré les clés. Mon fils, après le confinement, est arrivé, il avait fait un bail,
voilà, il avait fait un bail.
Donc, ils n'ont jamais payé. Ils sont à bout de 2 ans, ils sont barrés sans payer le loyer. Et donc, ils ont passé les clés. J'étais même pas au courant. Ils ont passé les clés à quelqu'un de la famille, une tante de la famille. Et donc, je mets une dizaine de Croates dans cette maison qui ne paient pas non plus les loyers, rien du tout. Voilà. Voilà où on en est.
Et donc, c'est une catastrophe pour vous, quoi.
La maison. Je vends la maison, donc ça a été compliqué parce que les acheteurs.
Ben, moi, j'achète pas, ça c'est sûr. Mais ça, la situation est compliquée.
Le notaire à Carcassonne pour faire un avenant parce qu'ils acceptaient de prendre la maison et s'occuper de les faire évacuer. Mais bon, ça m'a valu de perdre. Donc, d'abord, la maison, le premier temps, elle a été vidée de ses meubles. Donc, j'ai perdu près de 30 000 euros de mobilier, 28 000 euros de perte de loyer. Et là, j'ai baissé le prix de la maison à 50 000 euros. Donc, résultat des courses, je perds 100 000 euros sur 4 ans. Voilà.
Ouais, vous êtes évidemment très perdant. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, Thierry. C'est hallucinant. Ouais. Et le pire, c'est que des histoires comme ça, qui nous paraissent totalement abracadabrantes, il y en a plein, en fait.
Et je le rappelle, si jamais il avait voulu se faire justice lui-même, c'est-à-dire aller virer les squatteurs.
Il y a un peu pensé quand même.
Ouais, ouais, bah, c'était 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Alors que la justice met énormément de temps à traiter, parce qu'on n'a pas les moyens, que la justice n'arrive pas à le faire ça dans les délais, mais c'est un sujet aussi.
Pierre Rondeau, justement, quand on entend ce genre de choses, on se dit que ça donne presque envie de se faire effectivement justice à soi-même, ce qui n'est jamais une bonne chose. Est-ce que c'est bien que la loi donne un peu d'espoir, entre guillemets, aux propriétaires?
Alors, mais je reprends ce que disait Perrico justement sur la question de la loi et de l'application de la loi et la distinction qu'on pourrait faire entre des propriétaires solvables ou non solvables. La loi, malheureusement, en droit franco-allemand, elle s'applique pareil pour tout le monde. Donc on ne peut pas faire des
distinctions. Pourquoi franco-allemand ?
Il y a le droit anglo-saxon, c'est l'interprétation, le juge-arbitre, et le droit franco-allemand où on applique la loi qui a été votée à l'Assemblée. C'est le système philosophique du droit, très simplement. Et faire une loi à ce sujet-là sur les squatteurs ou le squat, c'est prendre le risque de mettre sur une même balance, sur un même niveau, les gens insolvables qui ne peuvent pas payer leur loyer et qui ont un bail, mais qui malheureusement, pour l'histoire de vie, n'ont plus les moyens de payer, et les squatteurs, comme le témoignage de Thierry, qui vont forcer la porte. Qui vont squatter.
Il y a 1000 juristes qui sont prêts à faire le texte qui va faire la différence très précise.
C'est pour ça que dans le durcissement de la loi,
après, ces squatteurs-là, ils doivent rarement richissimes et
dans la question
famille.
De la loi, on ne connaît pas encore le projet en l'état actuel des choses, mais tel qu'il sera fait, je suis pour effectivement durcir le cas des vrais squatteurs.
Les fractions.
Le
retard de loyer.
Et là, les retards de loyer, moi, le risque qu'on fasse une loi sur les retards de loyer, les non-paiements de loyer, c'est qu'on attaque aussi directement la mère de famille, seule, avec enfant, qui n'a plus les moyens.
Alors, si c'est au bout de 24 mois, peut-être que là, on peut être un petit peu plus dur que 3 semaines. Tu vois ce que
je veux dire. Sûrement, mais quand on parle de loi, il faut être très précis.
Par contre,
dans
les fractions,
les
occupations des lieux,
les occupations illégales, bien évidemment,
ce témoignage de plus.
Personne ne peut défendre.
C'est le 100e témoignage qu'on a de ce genre. on est dans un état de droit qui s'appelle la République française, mais un mec arrive de Mars, il dit c'est surréaliste.
T'arrives chez toi, et le flic, toi qui te dit je suis chez moi.
Et le flic te menace.
Qui utilise tes fringues, qui dort dans ton lit, tes photos cassées.
Et le policier qui est là pour te, et le policier ou le gendarme qui est là pour te défendre, te dit vous l'avez tapé, elle a crié, vous avez, vous dégagez.
Mais ça montre aussi que nos institutions qui, à une époque quand même, j'ai l'impression marchaient mieux, mais l'école, la justice, la police, moi je rêve d'une France où on a des trains qui arrivent à l'heure, des hôpitaux où il y a suffisamment de soignants, et j'ai l'impression que tout se délite un peu.
Complètement.
Non mais je rêve. Oui, mais c'est ça en fait.
Surtout que les bâtiments sont
pas. On parle toujours de ces cas extrêmes. On parle pas des gens qui ont des trains supprimés tous les 4 matins, des gens qui sont assis dans les trains. Et moi, il y a un moment où ça aussi, je pense qu'il faut mettre en avant et que c'est une question d'anticipation des pouvoirs
faut
publics.
Rémi, vous avez un message.
J'ai un message très intéressant qui nous parvient sur Direct Studio de Séverine. Écoutez bien, je suis une maman avec 2 enfants.
Ouais.
Je n'ai pas les moyens financiers de louer autre que des logements sociaux, même avec des garants. Les bailleurs privés ne veulent pas de mon dossier.
Oui.
Actuellement, je suis logé, je m'en réjouis, par l'OPAC de l'Oise, mais c'est une passoire thermique. Donc voilà. Elle aimerait se loger, on l'a compris, dans le parc privé.
Oui,
mais non, je comprends que les bailleurs aient peur de me loger. Mais ils ont pas peur de moi parce que je suis quelqu'un d'honnête et prêt à payer. Ils ont peur des mauvais payeurs et des squatteurs. Je suis donc moi-même une victime, quelque part, des gens qui ne respectent pas la loi.
C'est ça, ça pénalise ceux qui sont ric-rac au niveau du financement.
Qui sont honnêtes et qui sont prêts à payer leur loyer et qui feront tout pour payer leur loyer. Mais qui sont confrontés à la défiance de la part des bailleurs privés qui, eux, ont peur des mauvais payeurs, des vrais mauvais payeurs.
Notre invité sur ce débat, c'est Christophe Demerson. Il est président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle.
Ça va dans le bon sens, cette loi, Christophe? Vous l'attendez depuis longtemps?
Écoutez, c'est vrai qu'on l'attend depuis longtemps, cette loi. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il faut voir que déjà l'année dernière, en décembre 2021, on avait les mêmes soucis. Et il y avait une proposition de loi qui avait été adoptée au Sénat, justement pour accélérer les procédures administratives, et puis pour tout simplifier, et puis aussi pour bien définir ce qui pouvait être saisi ou pas, parce que qu'est-ce que c'est qu'un appartement, qu'est-ce que c'est qu'une maison, qu'est-ce que c'est qu'un atelier, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble. On voit en réalité aujourd'hui en face de nous, j'allais dire, des délinquants professionnels, malheureusement, et ces délinquants professionnels, ils sont bien au courant de tout ce qui se passe, notamment par des sites internet. Donc cette proposition de loi de la rapporteure, Madame Estrosi Sassone, elle est dans le bon sens, parce que comment ils font les gens? C'est pas dur, ils allaient sur internet, ils continuent d'aller sur internet, ils regardent les procédures à suivre, comment on fait pour squatter. On casse les serrures, on rentre, et puis on dit que éventuellement que le propriétaire a pu être violent. On dit que le propriétaire, vous avez prêté l'appartement ou la maison ou l'atelier. On dit ce qu'on veut, et puis après, c'est au propriétaire de prouver, si vous voulez, le titre de propriété et de se tourner vers l'administration fiscale pour prouver qu'il est bien propriétaire. Donc effectivement,
et ça va changer, on est d'accord.
On marche sur la tête. Et donc ce qu'on veut, nous, en réalité, ce qu'on veut à l'UNPI, on est là pour quoi? On est là pour protéger les propriétaires. Et pour protéger un propriétaire, j'aurais dû le dire en préambule, mais je le dis quand même, il faut toujours garder son calme. Si la maison a été fracturée, par exemple, vous allez à la gendarmerie, vous allez porter plainte, vous faites venir un huissier. Vous ne vous faites jamais justice vous-même.
Oui.
Et la dérive, on la voit. La dérive, il est où? Et la dérive, il est que il n'y a pas de proportionnalité. Si vous regardez un squatteur, lui, il risque 15 000 euros d'amende.
C'est 45 000 pour le propriétaire.
Si c'est le propriétaire qui veut récupérer son bien, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas normal.
Je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un équilibre, que les choses se rééquilibrent, qu'on définisse bien ce qui se passe, parce que je vais vous donner un exemple. Vous prenez quelqu'un qui va aller dans un appartement qui est neuf, qui se termine.
D'accord.
Cet appartement, en réalité, les squatteurs rentrent à l'intérieur. Eh ben, il n'est pas protégé. L'appartement, il n'est pas protégé, puisque ce n'est pas encore un bâtiment d'habitation. Ouais. Il n'a pas encore été habité.
Et vous ne l'avez même pas assuré encore.
Et il n'est pas assuré, etc. Et les exemples comme ça, on peut les prendre à l'appel. Si vous prenez, nous, on le voit souvent, parce qu'on a souvent des artisans qui viennent nous voir. Le petit artisan, il a la retraite, il a un atelier. Voilà. Donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est un peu fatigué. Il commence un peu à aller à la maison de retraite ou voir ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, l'atelier est fracturé. On rentre dans l'atelier. Et puis, on fait quoi? On s'occupe de l'atelier. On squatte l'atelier. On squatte la cour. On met des caravanes dans la cour, etc. Et puis après, on rentre dans la maison. Et si vous voulez, tout cet amalgame fait que, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des réseaux, j'allais dire, quasiment professionnels.
Oui, bien sûr.
De ça. puisque il y avait un exemple qui avait frappé tout le monde et on l'oublie aujourd'hui, c'était au moment des attentats, je ne sais pas si vous...
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'exemples qui ont frappé beaucoup de monde.
On appelait ça avec l'affaire Jawad.
C'était un jeune. Oui, ça, on se souvient, oui, bien sûr.
Voilà, le jeune, il avait pris un immeuble. Et puis, en réalité, bah, lui, le propriétaire, il était dans la loi pour essayer de récupérer son bien. Et puis, pendant ce temps, le jeune, lui, il délivrait des baux et puis il encaissait des loyers.
Donc, okay. Alors, Christophe, on va essayer d'être un peu court parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui veulent s'exprimer. J'aimerais bien leur passer la parole. Laurent nous appelle de Livry-sur-Seine, en Seine-et-Marne. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Estelle.
Et vous, Laurent, alors vous êtes un mauvais payeur, vous.
Voilà, moi je suis un mauvais payeur. Donc merci à Perico d'avoir fait la distinction entre incident de la vie et squatteur, parce que ça a absolument rien à voir. Moi j'ai un bailleur qui était les 3F,
d'accord,
que j'ai tenu au courant de ma situation, qui ont ralenti la procédure pour m'expulser, parce que je m'occupais de ma mère, c'est ce qui m'a mis dedans. Et au bout du compte, je les ai toujours tenus au courant. À la fin, j'ai quitté mon appartement en le rendant, en évitant les huissiers. Et donc aujourd'hui je suis SDF, mais par contre je suis SDF pour pouvoir rembourser au plus vite, parce que je compte pas rembourser en 10 ans, quoi. Donc c'est pour pouvoir rembourser plus vite que j'ai pas repris un appartement derrière. Mais même les bailleurs sociaux, quand on les tient au courant, ils comprennent les situations, en tout cas moi pour moi, j'ai compris, et ils m'ont soutenu en fait.
Et vous arrivez à être aidé pour payer votre loyer? Parce que vous dites, ça paraît aberrant, vous êtes obligé en fait de dormir dans votre voiture pour payer un loyer, vous n'avez pas...
Je travaille, d'accord. J'ai droit à aucune aide.
D'accord, vous faites partie des travailleurs pauvres en France, en fait.
Voilà, c'est ça.
Mais Laurent, en fait, vous avez eu un accident de la vie qui fait que vous n'avez pas pu payer votre loyer, c'est-à-dire que vous avez été au chômage, par exemple?
J'ai assumé ma mère.
D'accord.
Qui était en cancer généralisé avec Alzheimer, donc je l'ai assumé pendant 3 ans. Donc, vu que c'est tombé en plein Covid, tout était compliqué. En plus, on ne connaît pas forcément les lois, donc j'ai payé pendant 2 ans et demi son appartement alors qu'il était chez moi. Donc, l'un dans l'autre, une fois loyer mutuel, il n'y avait plus de sous, elle avait une petite retraite. Donc, je devais rajouter derrière, en fait.
Et vous n'avez pas payé pendant combien de temps, Laurent?
2 ans et demi.
D'accord. Et vous êtes parti donc sans avoir payé, en fait, avant que les huissiers n'arrivent, et aujourd'hui, vous remboursez chaque mois?
Ah, mais c'est même pas ça. J'ai toujours tenu au courant mon bailleur, donc il était au courant. Lui, je vous dis, la procédure, il l'a pas lancée tout de suite. Il a attendu au maximum pour la lancer. Et ensuite, ma maman, elle est décédée. Quand elle est décédée, je les ai recontactés. Je leur ai expliqué. Je leur ai demandé si je pouvais rendre l'appartement avant de me faire expulser par les huissiers. Ils m'ont dit pas de problème. Ils m'ont pas envoyé les huissiers. On a fait un état des lieux normal. Et aujourd'hui, je rembourse ce que j'ai à rembourser.
Alors, vous dites, Laurent, c'est bien de faire la différence, et effectivement, on est tous d'accord avec ça, avec un squatteur et quelqu'un qui a un accident de la vie. Mais est-ce qu'il faut faire aussi la différence entre un bailleur, 3F, et un propriétaire particulier? Parce que ça aussi, c'est pas tout à fait pareil.
Bien
finalement,
sûr. Les 3F, ils n'ont pas forcément besoin de mon loyer, ils ne vont pas couler. Alors qu'un particulier, moi, j'avais vu une dame, là, une amie qui était partie en vacances, elle revient, c'était il y a des années. Elle revient de vacances, on lui a squatté, c'est elle qui s'est retrouvée SDF.
C'est ça. Oui, non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. On est d'accord, Christophe Demerson, que voilà, il faut faire quand même des distinguos dans la loi.
Bien sûr qu'il faut faire des distinguos, mais vous savez, moi, ce que je vois souvent, quand on rencontre en réalité le bon sens, un propriétaire normalement, s'il a un bon locataire, il n'y a jamais de soucis. Effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir des soucis. Et en général, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt des gens qui ont attendu, et peut-être des fois trop attendu, pour essayer de régler les choses. Et cela dit, à côté de ça, on a une bonne garantie aussi. Il y a plein de garanties privées qui sont très bonnes, mais on a aussi la garantie Visale. Et cette garantie, nous, on a signé un partenariat national avec Action Logement, justement pour que des gens, par exemple, qui travaillent, des intérimaires, des saisonniers, etc., puissent se loger, puisque il faut comprendre, il faut se mettre à la place d'un bailleur privé. Le bailleur privé, lui, il a tout risqué là-dedans, parce qu'il peut détruire son appartement.
C'est pour ça qu'il faut faire la différence, on est d'accord.
Et puis aussi, ce qu'il fait pendant ce temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les charges, elles courent. L'eau court, il a l'obligation d'entretenir le bien.
Mais c'est pour ça que c'est pas pareil. C'est pas pareil, un propriétaire particulier et un bailleur. C'est pour ça qu'il faut aussi faire la différence.
Et il continue aussi, malheureusement, à payer ses impôts fonciers. Il n'y a pas de dégrèvement, il n'y a rien du tout. Et vous avez vu, comme moi, l'actualité récente nous l'a prouvé. Vous avez vu l'explosion des impôts fonciers. Donc souvent, il faut rappeler aussi qu'il y a un chiffre quand même qui va vous intéresser. Il y a un tiers des bailleurs, c'est des retraités, des petits retraités.
Mmh. Oui, non, mais là, je parlais des entreprises qui étaient bailleurs, c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire que quand c'est un particulier
qui a des moyens,
son logement. Merci Christophe Demercy, on va remercier Laurent aussi, et puis bon courage Laurent, voilà, et puis merci pour votre témoignage dans Estelle Midi. Vous avez plein de messages, Rémi.
Notamment ce message de Mathieu qui nous dit faisons comme au Canada. Là-bas, c'est très simple. Vous devez payer votre loyer le premier de chaque mois. Si le 3 du mois, vous n'avez pas payé, c'est une hausse de 20% du montant du loyer sur ce mois-là. Et puis si le 5, vous n'avez toujours pas payé, c'est une expulsion immédiate par les forces de l'ordre. Ah oui. Quel que soit le temps et la saison.
Ah oui, au Canada, c'est un peu l'hiver à moins 40.
Il n'y a pas de très hiver.
C'est un peu dur. Durcir la loi contre les squatteurs, est-ce que vous êtes pour ou contre?
C'est pour et c'est massif. Hein. C'est rare qu'on ait des scores aussi massifs. 96% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Je vois pas comment on peut être contre.
Oui, je vois mal comment.
Non, mais tu peux être contre pour protéger. Regarde Laurent qui vient de nous appeler, qui vit dans sa voiture.
C'est pour ça qu'on distingue les mauvais payeurs et les squatteurs.
Mais c'est un mauvais payeur. Et la loi, elle est aussi pour les mauvais payeurs. Elle n'est pas que pour les squatteurs. En fait, elle est pour les mauvais payeurs. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux aussi te dire que Laurent, voilà, il a tout fait comme il pouvait. Sa maman est tombée malade. Il a dû gérer deux loyers.
La loi peut dire au bout de 18 mois, 12 mois, 24 mois de non-loyer, elle s'applique. Voilà, elle laisse un délai. Et on est dans la justice républicaine.
En fait, on est tous d'accord pour dire que ça dépend comment est créée la loi, à qui elle s'applique. Et ce que tu disais, c'est pas la même chose entre les multipropriétaires, les petits propriétaires qui dépendent du loyer et les bailleurs.
Et un peu les policiers qui arrivent en donnant tout de suite raison aux squatteurs. Enfin, les témoignages sont accablants.
Mais parce que c'est la loi. Oui, c'était pas la loi, tu penses.
Je sais bien que c'est la loi, mais.
Je pense pas que les policiers ils soient pro-squat, hein, tu vois.
Non, on est quand même sur Mars, quoi, à un moment donné.
Allez, dans un instant, le meilleur d'RMC, le zapping, ce sera juste après cette très courte pause. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h33 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. Et tout de suite, c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Alors que le bateau Ocean Viking est arrivé ce matin à Toulon, est-ce un échec politique pour la France? Pour Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, cet accueil rend le gouvernement complice des passeurs. Selon lui, la France entre dans un laxisme migratoire qui laisse une porte ouverte à de nouvelles migrations illégales. Écoutez.
Ce n'est pas qu'un objet humanitaire. C'est un signe extraordinairement négatif adressé à ceux qui, depuis les rives sud de la Méditerranée, font le commerce des êtres humains. Eh bien, quelque part, ils ont obtenu satisfaction grâce à la France. C'est une faute très lourde de la part du gouvernement français. Le président Macron, il y a quelques années, lorsqu'il s'agissait d'accueillir l'Aquarius, et il avait refusé, avait dit qu'il ne fallait pas s'armer de bons sentiments et qu'il fallait faire preuve de fermeté. Aujourd'hui, il trahit une fois de plus sa parole. C'est la première fois que la France accueille ce type de bateau. C'est un signal extraordinairement négatif qui est lancé.
Éric Ciotti,
ça veut dire que c'est un laxisme migratoire qui prend une étape nouvelle aujourd'hui.
Éric Olegas, est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Ciotti? Est-ce que la France a fait preuve de laxisme migratoire?
Laxisme migratoire, non, mais on n'a toujours pas pris les mesures politiques et économiques pour éviter ces tragédies. Bon, et ce n'est pas à la rive nord.
Ça peut commencer la semaine prochaine.
Non, mais la rive nord de la Méditerranée n'a pas assumé les défaillances gigantesques de la rive sud de la Méditerranée. Il faut régler le problème des deux côtés. Quand ils sont au milieu de la mer, évidemment que pour des raisons humanitaires et morales.
L'Italie, ils n'en avaient rien à faire des raisons humanitaires, vous voyez.
Non, mais la Grèce non plus. Mais pourquoi c'est à eux que l'Allemagne, tout de suite, voyez, que les autres pays, alors elle l'a fait aussi à un moment donné. Mais si on ne prend pas tous autour de la table une décision de dire à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, à la Libye, mais qu'est-ce qui se passe?
Comment tu veux discuter avec la Libye déjà? La plupart des migrants passent par la Libye. La Libye, il n'y a pas d'État en Libye, il y a une guerre civile.
Eh bien.
On a essayé de régler le problème en Libye.
Puisqu'on ne peut pas envoyer de troupes en Ukraine, puisqu'on ne veut pas y aller, on peut envoyer la marine, les marines nationales sur la mer et dire aux Libyens, non, ces bateaux, ils ne partent pas, ils restent sur place.
Et alors, donc il n'y a plus de commerce avec ces pays-là, alors, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font les migrants?
Les bateaux de commerce passent, normaux, on les en a. Par contre, on fait, au lieu de faire la police au milieu de la mer, on empêche ces gens-là d'embarquer et on s'assure en plus d'où ils viennent, comment ils viennent, et on revoit notre
Tu vas pas contrôler tous les ports du monde. Ils peuvent partir de n'importe où.
Alors donc, ça veut dire qu'on les laisse arriver.
Mais comment tu fais, Perico?
On les laisse arriver, à un moment donné, vont arriver au pouvoir dans les pays où on y va arriver des gens qui feront qu'ils viendront plus du tout. Mais on peut continuer comme ça.
D'ailleurs,
on se bâche le visage.
Mais comment tu fais? Ils envoient pas un truc sur les réseaux sociaux en disant coucou, nous partons aujourd'hui. Ils peuvent partir de n'importe où.
On fait un blocus. On empêche les bateaux de quitter la côte.
Comment tu fais? Parce que tu ne sais pas d'où ils partent. Ils partent pas que des ports.
On les ramène. On les ramène.
En Libye, avec qui on va discuter?
On les ramène d'où ils viennent.
Quel état?
Tu sais même pas d'où
ils viennent. On les ramène d'où ils viennent en s'assurant que sur place, ils aient aussi des conditions de vie.
Imposer. Syrie, ils ont des conditions de vie extraordinaires.
On installe des missions. On ne demande pas l'avis de la Libye et on installe sur le territoire libyen. Ils ne nous tireront pas dessus. On verra bien. Mais la gérance de la Libye qui laisse passer des... Mais bien sûr que si.
Vous faites comment? Vous dialoguez ou comment ça se passe?
La Syrie n'a pas de... Pour l'instant, ça va sur la Grèce.
Si ça va sur la Grèce...
À la Grèce à régler son problème.
On paye la Turquie
pour gérer le problème.
Alors, j'allais dire...
Ça arrive même pas en Grèce. On paye la Turquie pour les garder.
Voilà, la solution, c'est de... Est-ce qu'on peut payer ces pays?
L'Angleterre nous paye pour qu'on garde les...
On a versé, je crois qu'on a versé 45 milliards d'euros aux nations de l'Afrique du Nord pour qu'elles gèrent ce problème. Où est cet argent? Je crois que c'est 450 millions, on vérifiera.
Oui, parce que 45 milliards, ça paraît beaucoup.
450 millions d'euros à ces pays pour qu'ils gèrent. L'argent est allé dans les caisses des dirigeants des partis.
Ça vous étonne?
Et alors, non seulement on a payé pour rien, mais là maintenant, voilà, et ces gens-là, ils ne seront pas bien traités.
Non, mais tu vois à quel point c'est un débat compliqué parce qu'on n'a pas la réponse par des missions.
Mais à un moment donné, il faut prendre une décision douloureuse.
D'autant plus que je rappelle, on parlait de l'environnement et des questions environnementales, du fait du dérèglement climatique, l'ONU attend ce qui est plus de 250 millions de migrants écologiques.
Oui.
Donc on est déjà en train de paniquer avec 250 migrants dans le chain booking. C'est que le début et ça va cesser d'augmenter. Oui. Et alors maintenant, si je reprends la sémantique, en tout cas le discours d'Éric Ciotti, où la France finalement s'est laissée aller au niveau des passeurs et a accepté à cautionner les passeurs. Non, justement, c'est qu'on empêche à ce que des gens puissent pratiquer le trafic humain et gagner de l'argent sur le dos des migrants, en les faisant payer parfois plus de 5000 euros pour le déplacement d'une espèce de radeau c'est même pas des radeaux, c'est vraiment des bateaux pneumatiques. Là, au moins, le chaîne Viking les recueille, leur permet effectivement de leur assurer une traversée sans heurts et sans fracas. Maintenant, toute la question est, où est-ce qu'ils vont? Et là, je l'accorde, c'est insoluble. Qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie là-bas? Comment? Avec qui on discute? Quel numéro de téléphone? Qui on appelle en Libye? L'Algérie? Le Maroc? La Tunisie? Qu'est-ce qu'on fait? Derrière, ils viennent en France? Non, ils veulent pas venir. En Italie? Non, ils veulent pas. La Grèce? Non, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Et d'autant plus que c'est extrêmement problématique, dans la mesure où ça va cesser d'augmenter. T'en auras de plus en plus.
Alors, je vais te dire, c'est douloureux, c'est douloureux et compliqué. On fait tomber les régimes corrompus qui font que ces gens-là fuient leur pays.
On va faire tomber le régime marocain et le régime tunisien.
À un moment donné, ce que je vois en Ukraine, le courage dont on fait preuve,
Poutine
est une horreur absolue. Je pense qu'à un moment donné, là, aujourd'hui, ça fait marrer. On y viendra parce qu'on n'aura pas le choix. On passera à l'action militaire à un moment donné pour éviter la catastrophe.
Mathilde Immer.
Moi, je pense qu'on réfléchit très mal sur la question de l'immigration depuis un bon bout de temps.
Bien sûr.
Si on prend l'exemple de ce bateau, on nous dit qu'il y a dedans des Bangladais, des Pakistanais, des Libyens, des Érythréens. On regarde ce que disait Pierre, en fait, sur les questions écologiques. Bangladesh, c'est le pays le plus vulnérable au changement climatique. Il y a des sécheresses au nord, il y a des inondations au sud, fond des glaciers de l'Himalaya, l'océan qui monte. Pakistan, vous vous souvenez peut-être de ces images qu'on a vues. Un tiers du pays qui a été ravagé par des inondations. Érythrée, sécheresse à répétition. Libye, un des 15 pays le plus pauvre en eau au monde.
Ouais.
Tout ça pour dire que ces personnes-là, elles ne se déplacent pas par envie de se déplacer. Donc la fermeté de M. Ciotti, elle ne va pas arrêter ces gens-là de prendre des bateaux, que ce soit l'Ocean Viking ou que ce soit des bateaux de fortune, parce que je rappelle qu'il y a 85% des personnes qui arrivent en Europe qui arrivent sur des bateaux de fortune et pas via les ONG. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, tenir nous, pays occidentaux, nos engagements en termes d'adaptation au changement climatique. On a, en 2009, dit qu'aux pays en voie de développement, aux pays africains, on vous donnera de l'argent pour vous adapter au changement climatique. 100 milliards.
Ils ont fait quoi de l'argent?
Non, mais on leur a même pas donné ce qu'on a promis.
Mais si on leur donne, ça partira.
On leur a même pas donné ce qu'on a promis.
Mathilde,
tu regardes juste le Pakistan.
Ça n'ira pas à destination.
Juste les inondations. C'est 30 milliards. Comment vous voulez derrière que ces pays-là soient en accord avec nous pour essayer de discuter, de dire comment est-ce qu'on gère le problème. Ils attendent d'abord que nous, on tienne nos engagements qui sont maigres. Même John Kerry, qui est américain, pas connu pour être quelqu'un qui est dispendieux en termes économiques, dit que ces 100 milliards, c'est rien. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on devrait leur donner. Les Africains, c'est moins de 4% des émissions mondiales. Moins de 4% des émissions mondiales. La moitié d'entre eux n'ont pas accès à l'électricité. Mais c'est le continent qui subit le plus le dommage des causes du changement climatique.
Mais faut faire quoi?
Faut faire quoi? Faut éviter que ce changement. Parce que je veux dire, en une phrase.
Faut payer.
On ne peut pas aujourd'hui dire je suis contre l'immigration et les écolos me font chier. On est cohérent. Si on veut moins d'immigration, si on ne veut pas d'immigration massive, alors c'est maintenant, tout de suite, en France, en Europe, aux États-Unis, en Chine, qu'il faut mettre massivement des actions contre le changement climatique. On ne peut pas faire les deux, sinon c'est que vous êtes dans un monde irréel.
Je vais aller plus loin que toi. La FAO a donné des chiffres très précis. En 2050, 2 milliards d'êtres humains de la planète ne pourront pas habiter là où ils sont. Oui. Ils vont bouger. Migration de 2 milliards et demi, ce n'est pas les 450 000 qu'on voit de temps en temps.
Rappelez matin, ce matin, avec la nouvelle épidémie de grippe aviaire en France, faut-il craindre une montée des prix pour Marie-Pierre P, directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras et invitée ce matin d'Apolline Matin. Cette épidémie demande beaucoup de travail aux éleveurs et le confinement des volailles va, selon elle, provoquer une montée des prix pour la fin de l'année.
Il y a beaucoup de circulation de virus parmi la faune sauvage. Il y a une surveillance très importante qui a été mise en place depuis les crises précédentes et dont nous ne découvrons pas qu'il y a un risque et que le risque s'amplifie avec les migrations qui se produisent actuellement. Pour nos éleveurs, cela implique d'avoir pris des dispositions pour être en mesure de garder les animaux à l'intérieur des bâtiments, chose qui n'est pas du tout dans notre nature, puisque pour produire un foie gras, il faut élever un canard ou une oie, et cela se fait pendant 12 à 15 semaines avec accès à un parcours extérieur. Pour pouvoir les garder à l'intérieur, il faut en mettre moins dans les bâtiments. Il faut intervenir tous les jours pour garder une litière propre, pour que ce soit confortable pour les animaux. Donc c'est beaucoup plus de travail pour les producteurs.
Oui, on risque de manquer de foie gras à Noël. Il y a plein de petits producteurs
qui ne produisent plus. Ça sera la croix, il y aura les queues pour le foie gras et les tickets de rationnement. Alors, je plaisante, mais il y aura
des problèmes. Il y a plein de gens qui vont manger du mauvais foie gras industriel au supermarché.
Ah ben voilà. Ah ben celui-là, comme par hasard, la grippe aviaire, elle a frappé les élevages.
Il n'est même pas français.
Bah, c'est ça.
Alors, elle a frappé aussi les industriels, mais comme l'Union européenne autorise d'importer des foie gras de l'étranger, et pour peu qu'on retire une plime ou qu'on mette un grain de sel sur le foie gras, il devient produit en France ou en Europe, eh bien, la malbouffe de foie gras sera déversée sur les rayons de grande surface, et les pauvres continueront à manger de la saloperie.
Ça, c'est vrai. Au-delà de la question du prix, qui est évidente, et on risque d'avoir une inflation qui va exploser encore plus à Noël avec les achats de foie gras et de canard et tous les repas de fête qu'on doit avoir, c'est au niveau des normes environnementales et des normes écologiques et des normes alimentaires en Europe.
En Europe.
Il est évident, et là-dessus tu as raison, si on ferme un produit en France, ça devient made in France. Qu'il ait été importé je ne sais où
en Europe. Un grain de
sel. Un grain de... Mais même on le
une
ferme.
Une transformation,
même
quelle
pas.
Qu'elle soit.
Tu le fermes.
Ah, tu fermes ça, tu fermes la boîte.
Alors tu as fermé, bien sûr.
Tu fermes la boîte, c'est made in France.
Made in France.
Ça, c'est des normes.
Mais c'est pas possible, ça.
Acte unique européen.
Des normes européennes.
Pas d'entrave au libre-échange.
Absurdes et ubuesques. Et ça, effectivement, il faut les changer. Au-delà de la question de la grippe aviaire, effectivement, où là, on doit s'attendre, et on va s'attendre malheureusement à une inflation qui va exploser. Ce matin, il disait, voilà, il y a plus de 600 000 bétails et de volailles qui vont être tués en prévention de la grippe aviaire.
En plus des 2 millions l'an dernier. Voilà. Donc cette éradication de la faune.
Qu'on parfois, il n'y en a même pas qui ont la maladie.
Mathilde Emmer, mais finalement, c'est pas un drame si on se passe de foie gras Noël.
Non, mais la question de l'inflation, elle touche tout le monde. Et c'est parce que sur ce sujet-là. Et moi, ce qui me fait peur.
C'est la raréfaction aussi. Hein.
Oui, mais ça va de pair en réalité.
Ah, c'est pas l'inflation le problème, hein, c'est qu'il n'y a plus de bêtes, il n'y a plus d'éleveurs.
Oui, mais ça crée une inflation.
Ça fait nos épis, ouais.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des phénomènes auxquels, malheureusement, et j'aimerais ne pas avoir à dire ça, hein, on va devoir s'habituer. On va avoir une raréfaction de l'eau, on va avoir une raréfaction du blé, on va avoir. Et ça beaucoup pour des questions environnementales et écologiques, et donc on va payer plus cher des choses. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait moins mais mieux, et ça, Perico, je suis sûr que tu as plein de conseils à donner.
S'il n'y a plus de foie gras, tu vas pas en mourir. Alors, Estelle et moi, on fera un petit peu la gueule.
À titre personnel, non.
Ah, on va faire la gueule.
Moi, oui.
À titre personnel, non. Mais je comprends que les gens à Noël aient envie d'avoir de leur foie gras. Et
le bon foie gras depuis 40 ans doit être rare et cher. Le fait qu'on ait dit aux gens pauvres, vous pouvez y accéder, c'est parce qu'on leur produit des fournis infâmes. C'est ça le scandale.
Et c'est
de dire les pauvres, ils peuvent manger de la merde. Et je trouve ça aberrant.
Il n'y a qu'un mot magique, c'est IGP.
Bah c'est ça, exactement. Voilà, il faut le répéter.
L'indication géographique protégée, pour le reste, il peut y avoir.
Bien sûr,
à partir du moment où ils ne sont pas IGP, ça peut être un foie gras français très bon, mais on ne peut pas en être
oui,
certain.
Oui, mais qui dit IGP dit gens qui ont les moyens de se le payer.
C'est ça,
même
oui,
si
oui,
je dis souvent aux gens.
Même dans les magasins bio. Je suis dans un magasin bio la dernière fois. C'est le contact avec Mathilde qui a fait que j'ai essayé de prendre de bonnes résolutions.
Très contente d'apprendre ça.
Mais je voulais du miel. Et je regarde et j'arrivais pas à voir la provenance. Et je dis, mais il est fabriqué où ce miel? Et on me répond très évasivement.
Oui.
Bon, il y a un moment, et j'ai regardé, oui. Et en fait, c'est tous les miels. C'est un magasin bio qui a Pignon sur rue.
Mais le bio, c'est pas forcément du local.
C'était du miel roumain.
Le local est bien plus important pour moi que le bio.
Ça m'a embêté, évidemment, et personne ne le dit, quoi, alors que c'est un magasin bio et que quand même, ça attend un peu de transparence de la part de ces gens-là.
Mais c'est là où on revient à la question de la toute première question que tu disais sur les élus, on les respecte plus, et je disais, il y a aussi cette sensation de plus en plus de gens que les élus ne nous respectent pas. Quand on apprend, comme ce que disait Pierre, là, que le Made in France, ça veut juste dire qu'on a fermé la boîte en France, mais que le produit peut être produit en... Comment vous voulez que les gens aient confiance? Il y a un moment où on se demande pourquoi et comment les normes sont écrites, quoi.
On comprend, hein, de là à les écraser, peut-être qu'il y a peut-être une marge.
Bon. Dans un instant.
Je suis pas en train de dire ça, Péricon, on est bien d'accord.
Et ça va vous ravir.
Hein.
Le journal décalé de Paul Lassagne qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. Mais oui, enfin. Et puis, à 14h, on parlera des femmes au foyer en France. 2 millions de femmes au foyer. Est-ce qu'il faut leur créer un revenu spécial? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h51 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et comme chaque vendredi, voici le journal décalé de Paul Lassène.
RMC, Estelle Midi,
le journal décalé.
Et oui, il y a journal décalé même pendant les jours fériés. Et Paul, vous avez fait le tour de la presse quotidienne régionale,
oui,
rien que pour nous.
Jour férié, journée de commémoration, mais savez-vous ce qu'on commémore le 25 novembre?
Non. Le 25 novembre?
Oui.
Non.
On est 11.
Sainte-Catherine.
Heureusement qu'il y en a un qui est
25. Les demoiselles qui ont 25 ans n'ont pas encore vu l'homme.
Voilà.
Ah oui.
Absolument.
Enfin, elles l'ont vu, elles ne sont pas mariées. Quoi.
Voilà.
Les Catherinettes.
Oui, voilà, absolument.
C'est
une tradition dans la ville de Vesoul de fêter la Sainte-Catherine. Sauf que cette année, une inquiétude touche le village. En effet, il n'y a plus de sifflet en bois pour mettre dans le derrière des cochons. Alors, rassurez-vous Estelle, des cochons ne défilent pas dans les rues avec des bouchons dans les fesses. Non, non, chaque année pour la Sainte-Catherine, les boulangers et les pâtissiers de la ville fabriquent des petits cochons en pain d'épices et traditionnellement, ils glissent un petit sifflet en bois dans le derrière du cochon. Mais le problème, il y a un vrai problème. C'est une tradition.
D'accord.
C'est très étrange.
Ouais, je comprends. C'est étrange, mais c'est une.
Moi, j'aime bien avoir une explication aux choses.
Est-ce que vous pouvez expliquer toutes les traditions de France?
Oui. Bah, si j'ai bossé, oui.
Voilà, mais je n'ai. Vous vous entendez quoi?
Rien du tout.
Je suis là un jour férié déjà, hein, je fais un effort. Eh bien, du coup. Il y a un problème. Le seul fabricant de cet instrument qui se trouve dans le Jura, eh bien, son atelier est à l'arrêt car il est malade. Depuis des dizaines d'années, chaque 25 novembre, donc pour la Sainte-Catherine, il prépare ses petits sifflets. C'est une tradition depuis plus de 700 ans dans la ville de Vesoul. C'est 700 ans quand même qu'on prépare ses petits cochons avec des trucs dans le derrière. Mais il y a de réelles craintes au niveau des ventes du côté des boulangers, des pâtissiers qui ne peuvent pas remplacer ces sifflets par des sifflets en plastique. Parce que si vous mettez du plastique dans le four, forcément, ça fond et c'est pas très bon. Un cochon sans sifflet, c'est pas pareil. On a peur de décevoir les clients, déplore Jean-Luc, qui est boulanger à Vesoul.
Les pauvres.
Bah, c'est inquiétant pour la profession de boulanger à Vesoul. Vous n'avez pas l'air très concerné.
Et puis pour
hein.
la profession de siffletier. Enfin, je veux dire, c'est, voilà.
Voilà, on ne fera pas mieux. Autre question, est-ce qu'il y en a qui ont un chat autour de la table?
Non, oui. Je suis allergique.
Alors Pierre, tu dois donc savoir à quel point les chats, même s'ils ne le montrent pas forcément, sont attachés à leur maître. Eh bien, l'Est républicain nous raconte une bien belle histoire, celle de Coxie. Le monde veut devenir un cas. Alors Coxie, c'est une chatte de 10 ans dont les propriétaires ont quitté la Meuse il y a un peu plus d'un an pour s'installer dans l'Orne, mais drame dans la famille puisqu'après quelques semaines seulement, Coxie disparaît mystérieusement. La famille perd espoir et c'est complètement par hasard qu'au début du mois d'octobre, eh bien la propriétaire croit reconnaître son chat sur Facebook. Une annonce, on a retrouvé votre chatte, mais devinerez-vous où elle a été retrouvée?
Bah non.
Eh bien dans la Meuse, dans leur ancien village, devant leur ancienne maison, un soulagement, une histoire rocambolesque, parce que c'est à des centaines de kilomètres.
Parce
que c'est son territoire, elle est retournée à son territoire. Elle s'était perdue dans son nouvel environnement.
Bah non, ça fait loin quand même.
Oui, elle avait du courage. La famille est ravie. On est dans un rêve. Je ne sais toujours pas comment elle a fait pour revenir dans notre ancienne maison. Les enfants sont heureux, nous aussi. Depuis son retour, c'est notre reine.
Oh.
C'est une belle histoire de jour férié.
C'est bien, Paul.
Retour à Paris?
Oui.
Allez, retour à Paris. ces immeubles haussmanniens, ces cafés mythiques, les caricaturistes à Montmartre, les balades sur la Seine, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées et aussi ces transports en commun journée noire hier à cause de la grève, ce qui ne changeait pas vraiment de tous les jours, hein, on ne va pas se mentir.
La différence.
Et par conséquent, ces embouteillages. Mais avant cela, le Parisien nous révélait cette semaine ce chiffre selon une étude de Coyote, hein, vous savez qui fait les radars, enfin les avertisseurs de radars, les conducteurs franciliens, écoutez bien, passent 67% de leur temps dans les bouchons quand ils vont vers Paris le matin. Selon l'étude...
C'est sûr, oui.
Bah oui.
Mais,
oui.
Et c'est revenu au niveau d'avant Covid, après 2 ans de baisse due notamment à la crise sanitaire et bien sûr
au télétravail.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant ? Eh bien non, puisque déjà en 1972, on savait quel était le meilleur moyen pour se déplacer dans la capitale.
Vélo.
Ah bah oui,
oui.
Mais
oui.
Hier, il y avait des bouchons à vélo hier.
Ah oui ?
Je vous jure. Il y avait des embouteillages à vélo.
Ah, où ça ?
À Rue de Rivoli.
Ah.
Il y en avait beaucoup.
Beaucoup, beaucoup.
Oui. Moi, j'étais coincée dans mon taxi, donc évidemment.
Ah oui. ça n'est pas. Bah, le chrono est terminé.
Ah mais oui, mais bien sûr.
si vous voulez, je reste avec vous de 14h à 15h.
J'étais captivée par ce journal, je me disais, tiens, mais il n'en a pas fait assez. Et tout. Bah,
écoutez, est-ce que je reviens la semaine prochaine, quand même? Assez gentil.
Bien sûr, et jusqu'à, oulala, je ne sais pas.
Jusqu'à plus soif.
Merci beaucoup, Paul Lassalle.
Et je vous ramènerai un sifflet la semaine prochaine.
Oui, bah, avec la pâtisserie qui va avec aussi. Surtout ça qui m'intéresse. Tous les jours, tous les vendredis, Paul Lassalle, 13h50.
Il
n'y
a pas de budget pour tous les jours.
Non, je sais. Estelle, midi, dans un instant, on va parler des mères au foyer en France. Elles sont 2 millions. Faut-il leur créer un revenu spécial ? Parce que mère au foyer, c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. On attend vos réactions, vos commentaires au 32-16 et sur l'application RMC. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.